Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, 30 minutes pour parler de cinéma. Aujourd'hui, pas d'interview, pas de blind test, mais une petite idée pour une sortie cinéma en famille, Guillaume, puisque tu vas nous parler de deux dessins animés.
Oui, alors à la fois qui ont des points communs et puis qui sont assez contradictoires, donc c'est assez intéressant de comparer. Donc Ozzy, La Voix de la Forêt et Dogman.
Et puis toi, Sophia, c'est un film québécois qui se passe en Provence.
Oui, le dernier film de Sophie Deraspe, Berger.
Et quant à toi, Manu, eh bien, c'est un film néerlandais, non?
C'est un film néerlandais réalisé par un Suédois que le réalisateur présente comme un conte de fées pour adultes.
Et puis moi, je vous parlerai de Bunger. C'est un film français qui est sur Netflix, mais ça me paraissait important d'en parler. Et puis aussi de The Amateur. C'est Cinérama qui débute avec un publicitaire québécois qui décide d'embrasser la vie de berger en Provence.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais.
Bonjour.
Je vais pas rentrer.
Tout plaqué pour partir garder des brebis en Provence. Fantasme romantique ou projet de vie radical, réaliste. C'est en tout cas le pari un peu fou hein, que fait Mathias, un trentenaire québécois, épris de philosophie, campé par l'acteur Félix-Antoine Duval dans Berger, le dernier film de Sophie Deraspe. La réalisatrice canadienne, hein, acclamée pour Antigone en 2019, revient ici avec une adaptation libre du récit d'autofiction de Mathias Lefébure, D'où viens-tu Berger? Un film qui a séduit le festival de Toronto, le TIFF, où il a décroché le prix du meilleur film canadien. Loin des clichés bucoliques, hein, Berger s'aventure sur les chemins escarpés de la reconversion pour dresser le portrait d'un métier en péril et interroger la figure contemporaine du néo-rural à l'idéalisme tenace.
Excusez-moi de vous déranger, je cherche une place de berger. Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois.
C'est un métier dur.
C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi.
Mathias vient donc de Montréal, il décide, sans trop qu'on sache pourquoi, de quitter ses racines, son poste dans le marketing et toute sa vie citadine pour tenter de devenir berger en Provence. À Arles, il s'installe dans un hôtel modeste, s'achète de vieux manuels de pastoralisme et se lance donc dans cet apprentissage solitaire. Rapidement, il démarche des éleveurs à qui il demande une chance et se retrouve embauché chez les Telliers, un couple d'éleveurs en difficulté où il découvre la dureté du métier auprès d'Ahmed, un ouvrier désabusé qui n'a pas vraiment de tendresse pour les bêtes. C'est en parallèle que Mathias rencontre Élise, une charmante fonctionnaire alors qu'il tente d'obtenir un permis de travail. Tous deux entament à partir de là une correspondance à l'ancienne, s'adressant des missives manuscrites, pendant que Mathias apprend à la dure les ficelles du métier. La relation de mots qui unit donc les deux trentenaires va peu à peu se transformer jusqu'au moment où Élise, à son tour, décide de tout quitter, façon crazy ex-girlfriend, pour rejoindre Mathias sans s'annoncer. Ensemble, un peu malgré eux, ils se verront alors confient un troupeau de 800 brebis et s'engageront dans la transhumance à travers les paysages alpins en quête d'une vie nouvelle.
Maintenant, je suis berger.
C'est une blague? C'est pas comme ça que l'administration fonctionne.
Bonne journée. Une correspondance avec une Élise fonctionnaire, avec qui je m'invente une vie de berger, un tant soit peu édulcorée.
Oui, juste un petit instant.
Bon, mais alors qu'est-ce qui fait que Berger peine tant à convaincre dès les premières scènes? L'écueil principal vient sans doute d'une très discutable caractérisation de ses personnages. On a bien du mal à éprouver de l'affect pour Mathias, ce héros un peu trop idéaliste, trop naïf pour être crédible. Bon, il arrive dans ce milieu pastoral sans réelle connaissance, sans expérience de terrain, sans aucun sens pratique, mais avec une sorte de supériorité morale, comme s'il savait, lui, mieux que personne, que ce métier a du sens, et qu'il pourra donc écrire une grande œuvre à ce sujet. Bon, c'est un personnage qui a le luxe de pouvoir se demander ce qu'il veut faire de sa vie, un luxe que n'ont pas forcément les éleveurs qu'il rencontre, et cela participe à le rendre plutôt antipathique. Presque malgré lui, il renvoie au berger en place une image un peu condescendante, hein, celle de l'urbain qui débarque avec ses certitudes, convaincu qu'il va trouver là chez eux une vérité que les autres auraient négligée. Résultat, les premiers pas de ce parcours initiatique manquent cruellement de chair, d'émotion et de profondeur. À cela s'ajoute un vrai problème de crédibilité hein, dans la direction d'Actoris, hein, qui se retrouve à différents niveaux. Les accents, notamment, hein, mettent immédiatement à distance le spectateur et la spectatrice. Hein. Mauvais accent provençal, mauvais accent arabe pour Ahmed, hein, l'ouvrier agricole censé former Mathias. Et ce personnage, justement, en rajoute hein, dans la caricature avec des expressions forcées censées traduire un parler marocain, ce qui, à une oreille de spectatrice français, manque particulièrement de vraisemblance. Hein. Je me doute que pour les Québécois, c'est un peu le même malaise quand des acteurs français forcent l'accent québécois, tu veux-tu que je te dise là ? Eh bien ici, la réciproque est douloureusement vraie.
Ah mais c'est un couple qu'il me faut. Le troupeau doit transhumer à pied dans les gorges jusqu'aux Alpes.
L'écologie, c'est nous. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage. À la fin de l'été, tu vas avoir des mollets comme des arbres.
C'est grave, tu crois ? T'as pas vouloir rentrer.
Ça ne va pas, qu'est-ce que tu fuis ?
Je suis ici, avec toi.
Bon, alors je voudrais pas crier au loup des Alpes trop rapidement, car heureusement le film finit par trouver un second souffle hein, lorsqu'il se recentre en deuxième partie sur la transhumance en alpage. La photographie de Vincent Gonneville sublime enfin cette vie retirée du monde et fait respirer le récit. On retrouve là l'ambition documentaire de Sophie Deraspe, mais pour sortir des clichés et faire une incursion dans la beauté et la dure réalité du monde agricole de nos Alpes françaises, bah, je vous recommanderais plutôt de vous tourner vers La ferme des Bertrands de Gilles Perret, disponible en VOD. Autrement plus juste et incarné.
Et qui a remporté un prix, lui. Bon, on verra pour l'autre. Donc, Berger, qui est en salle depuis le 9 avril. Le destin d'une couturière enceinte de son patron. Nous parlons de La jeune fille à l'aiguille.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Remarqué en 2020 avec Sweet, un portrait ironique d'une influenceuse polonaise, un coach de fitness, le Suédois Magnus von Horn passe à la vitesse supérieure avec un projet ambitieux qu'il présente, sans ironie, comme un conte de fées pour adultes. Présenté donc au Festival de Cannes en 2024 en compétition officielle, La jeune fille à l'aiguille a reçu un accueil très mitigé, voire même catastrophique, hein, si l'on se réfère aux critiques parues bah, notamment dans Libération, Le Monde, Les Cahiers, Télérama, pour ne citer qu'un échantillon de la presse institutionnelle. Dans Libération, on pouvait même lire cette accroche, le Suédois enchaîne les transgressions gratuites et s'acharne avec sadisme sur son actrice pendant que le spectateur excédé se demande comment cette atrocité atterrit en compétition. Voilà, rien que ça. Alors ce n'est pas le sens de la nuance là qui caractérise la prose du journaliste. Hein. Alors ce jugement lapidaire me paraît injuste car le film vaut mieux que sa réputation et l'on peut espérer une réception plus positive pour sa sortie en salle. Alors le défaut majeur du film est sans doute d'en faire trop, d'être trop riche tant sur le plan narratif qu'esthétique et de cumuler les références picturales, cinématographiques et littéraires en se frottant donc au plus grand hein, de Todd Browning à Murnau en passant par Victor Hugo. Alors de l'érudition parfois un brin scolaire à l'indigestion, il n'y a qu'un pas que Magnus von Horn ne franchit pas, heureusement. Il parvient le plus souvent à relever son pari et à dépasser l'exercice de style de petit malin par la manière déjà très frontale avec laquelle il croit à son récit mélodramatique qui pousse l'horreur à son paroxysme.
Et nous écoutons un extrait de la bande originale de Friederike Hofmeier.
Alors l'histoire se déroule à Copenhague en 1918, hein, à la fin de la Première Guerre mondiale. Hein, Caroline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre, résignée à ne pas revoir son mari revenir du front. Sans nouvelles, elle a une liaison avec son patron et tombe enceinte. Alors son espoir de vivre une autre vie n'est que de courte durée. Suivant les ordres de sa mère, ce patron, pas très téméraire, rompt avec Caroline et la congédie. Sans travail, expulsée de son logement, elle est au bord du gouffre. souffre. Alors ça ne s'arrange pas avec le retour inespéré du mari, totalement défiguré avec une tête à la Elephant Man. Voilà, je vous l'avais dit, hein, vous n'allez pas vous marrer. Alors jusqu'au jour où elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Elle lui confie son bébé pour un meilleur avenir dans une nouvelle famille. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Caroline se retrouve nourrice à ses côtés. Mais elle est loin d'imaginer ce qu'elle va découvrir. Alors nous, en tant que spectateurs, un peu, hein, et on redoute le pire de séquence en séquence. Adapté d'une histoire vraie hein, qui défraya la chronique en Hollande, hein, la jeune fille à l'aiguille impressionne d'emblée par la maîtrise feuilletonnaise de la narration, aux prises avec une mise en scène virtuose qui ne fait jamais dans la nuance, hein, nous en mettant tout le temps plein la vue. La similitude avec le conte n'est pas fortuite. Hein, en effet, Dagmar, un séduisant personnage trouble, gère une confiserie un peu comme la sorcière dans Hansel et Gretel. Le cinéaste joue avec nos émotions, entraînant sa Cosette au pays des moulins dans une spirale de malaise, affrontant des situations cruelles hein, qui mettent les nerfs à rude épreuve. Alors, à l'image de certains mélos insoutenables, le film peut susciter, par sa représentation quasi obscène d'une frange de l'humanité qui ne mérite pas d'exister, hein, affichant ainsi une misanthropie vénère hein, qui rappelle un peu l'inconfort du cinéma de Lars von Trier. Hein. Alors, le maniérisme outrancier de la forme interroge, mais ne laisse pas indifférent, avec ses décors cafardeux et ses plans picturaux. Alors, nimbé toujours d'une photographie en noir et blanc qui est tout en contraste, hein, qui est souvent magnifique, hein, très inspirée du cinéma expressionniste. Le travail sur le son, hein, on entendait des extraits de la bande originale, c'est déjà une bande originale vraiment excellente et le travail est impressionnant. Cette dramatisation d'un fait divers crapoteux flirte avec la complaisance, mais force est de reconnaître le talent inouï d'un jeune cinéaste sur lequel il faudra compter à l'avenir. Alors, son penchant doloriste pour le sordide est contestable, mais tel quel, hein, la jeune fille à l'aiguille reste une expérience sensorielle et narrative très singulière. Et puis, il y a du cinéma partout, ce qui n'est pas le cas dans tous les films qu'on voit.
Eh oui, Cosette au pays des moulins ou la jeune fille à l'aiguille, donc en salle le 9 avril. Allez, on fait une virée légère et comique dans l'univers de l'électro. Nous parlons de Banger.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Quand il s'agit de chroniquer certains films de Netflix, on regrette parfois de ne pas les avoir vus en salle. Ça peut être le cas pour The Irishman, le dernier Fincher, ou Le Monde après nous de Sam Esmail, hein, qui ne manquait pas d'attrait pour la salle obscure. Pour Banger, film produit par Netflix France, on ne se dit pas qu'on se déplacerait pour voir pareil film en salle, mais que le voir chez soi, eh bien, on y prend quand même du plaisir. Et quand je dis évidemment. Et c'est Arculon, hein, d'ailleurs, que j'ai regardé ce film réalisé par Somi, soit Bertrand Lagro de Langeron, qui est graphiste notamment pour le label d'électro français Ed Banger. Mais une fois devant ma télé, eh bien, je n'ai pas regretté. Alors déjà, j'aime bien voir jouer Vincent Cassel, c'est comme ça. Et la dernière fois, c'était dans le film de Cronenberg, qui va sortir à la fin du mois, un rôle dramatique. Mais là, c'est un rôle drôlatique, car Banger est une comédie, un film décomplexé qui repose sur un scénario maigre, mais qui parvient à captiver le spectateur en organisant des séquences qui font sens avec des acteurs impliqués. Vincent Cassel interprète le rôle de Scorpex, un DJ qui a connu son heure de gloire et qui est clairement en perte de vitesse. Et quand les gens lui disent « Eh bien, ce serait bien hein, ton comeback », il ne cesse de se défendre « Mais je ne suis jamais parti ». Et là, tout est dit, il est choisi par la DGSI, le renseignement français, donc pour devenir super ami avec Vestax, interprété par Mister V, un jeune DJ qui est en connexion avec des malfrats. La cible, donc, ce sont les malfrats.
Rose Espino, service de renseignement rattaché au trafic de stupes.
Bouge pas.
C'est qui pour toi, Vestax ?
Arrêtez, je vais rougir, j'aime pas qu'on crie mon nom comme ça.
Vestax, c'est une petite merde. Je peux pas vous dire mieux.
Tu vas devenir son meilleur ami.
Ok.
Il est mouillé dans une grosse affaire de stupes. Lui, c'est le barjo de la bande. Il se fait appeler Molotov.
Vestax, c'est pas du genre Vestax !
Un DJ qui sauve la France, c'est pas mal quand même.
Le réalisateur se tient à ce scénario qui nous place dans le monde de l'électro et de la mode. Alors il faut dire que le film se veut très didactique. La première séquence, on entend Laura Felpin, l'agent de la DGSI, qui explique à son collègue ce qui fait un bon DJ. C'est comment il va enchaîner les morceaux des autres. Et puis durant tout le film, eh bien, il y a l'autre aspect, c'est comment produire un morceau. Et à ce jeu-là, eh bien, le Scorpex déclinant n'est pas au top. Hein. Pour se sortir de sa mission qu'il accepte à contre-cœur, eh bien, il se tourne vers les DJ qui ont du succès. Notamment Exta, joué par Panayotis Pasco, qui lui explique son futur show. Alors, il dit quelque chose de très intéressant sur ce qu'il fait à DJ pour le public.
Moi, je me mets tout en haut.
Ok.
Tout là-haut, avec le casque, cosmonaute, je parle aux gens et tout. Bon, je vois pas grand-chose avec, mais de toute façon, ouais, je m'en bats un peu les couilles. Tu sais, tu touches 2-3 potards, un peu mytho, les gens, ils sont contents.
Story of my life.
Ouais.
Voilà, hein, tu touches 2-3 potards. Le film s'amuse à enfoncer cette porte ouverte de tous ceux qui enlèvent à la musique électronique son aspect créatif, mais dans le même temps, il donne les codes pour comprendre son univers. Dans un monologue incisif, Alexis Menanti, qui joue le méchant Barjot, bon, il joue souvent des méchants, mais là, il joue le méchant Barjot, dresse l'ensemble du spectre des musiques électroniques selon le BPM, et c'est très instructif, et puis c'est très bien mené. Et puis Vincent Cassel, enfin Scorpex, hein, doit absolument construire un morceau, donc l'on voit également comment se nourrissent les producteurs de musique pour élaborer une création. Parfois, donc, ils ont besoin d'aide.
Jean-Marc, j'ai vraiment besoin
non,
de toi.
Non, ah non.
Quoi ?
Ah non, personne sait que je m'appelle comme ça.
Mais y a personne, tout va bien.
Ouais, mais quand même.
Bon, écoute-moi.
Dis-moi.
J'aurais besoin que tu me lâches un son. Un beat, 16 mesures, tranquille, s'il te plaît.
Alors, non.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?
Ma carrière, maintenant, c'est on avance tout droit, on regarde pas dans les rétros. Maintenant, je fais que des beats pour moi.
Regarde toujours dans le rétro, mon cher ami, parce que qui tu croises à la montée... Tu vas les recroiser à la descente.
Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut vraiment se focus sur la montée quand t'es en pleine montée.
Oui, oui,
vraiment.
Non, je suis bien d'accord. Jean-Marc, écoute-moi bien.
Exta.
Oh, qui est-ce qui t'a trouvé le surnom Exta ?
C'est toi ? Le message ?
Ne le dis pas. C'est entre toi et moi.
Ok.
Ok.
Merci.
Donc, y a pas de problème.
Ouais.
Écoute, j'ai besoin d'un mec qui ait du talent pour me sortir d'un petit pétrin dans lequel je me suis foutu, et je viens me voir toi. Je te crédite pas. Personne ne le sait, c'est entre toi et moi. Prends-le comme un compliment.
Je ne peux pas. Regarde,
j'aurais
ce que je peux faire.
Monde.
Ce que je peux te faire. C'est de faire un câlin et
te
t'aider.
Tu fous de ma gueule ou quoi ? Mais putain, je me rappelle, j'ai des petites visions de toi où tu viens. S'il te plaît, est-ce que je peux prendre le set ? Je peux faire un petit set vite fait ? Je me rappelle encore comment t'étais habillé. J'étais en Balenciaga et toi t'étais en short.
Bon, la séquence était encore plus longue, il a fallu la couper. Tous ces ingrédients sont disséminés habilement dans un film avant tout léger qui se joue des clichés, des stéréotypes, non seulement sur l'univers de l'électro, de la nuit, mais aussi sur le monde de la mode. Banger n'est donc que légèreté et conscience d'éduquer. Il y a des scènes vraiment exquises. L'avantage de ce film, c'est qu'il n'est jamais poseur ou crétin. Alors, c'est Libération, tiens, on en reparle encore, qui titrait... Alors, il avait un super titre, c'était « Bite fait, mal fait ». Alors, c'était super titre.
Ah, c'est bien, ça.
Oui, c'est très très bien. Mais c'est un chouette titre, mais une vision vraiment vraiment erronée. Banger a cet autre avantage de faire écouter de la bonne musique préparée par Too Many DJs, les deux frères de l'excellent Soul Wax que j'ai vu l'été dernier. Et c'est vraiment fantastique pour tous ceux qui aiment l'électro. À mon sens, donc, Banger coche les bonnes cases du film télé. Pas idiot, drôle et puis généreux et un poil didactique. Donc, et la scène du billard nu est extravagante. C'est le seul moment où Cassel frôle le cabotinage. Mais voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir ce film qui est disponible sur Netflix. On va se faire un petit plaisir. On va écouter un extrait de la bande originale donc préparée par Too Many DJs. C'est un extrait de la bande originale du film donc de Banger, préparé par Too Many DJs. À noter même que je trouve que les musiques qui sont à l'intérieur du film sont encore un peu plus intéressantes que ce qu'on écoute là. Les dessins animés sont dans les salles pour ses vacances. Il se trouve que Guillaume en a vu deux. Nous parlons de Dogman et de Ozzy, la voix de la forêt.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Moi, c'est Ozzy. Quand j'étais petite, j'ai été séparée de ma famille. Des humains m'ont sauvée et j'ai grandi dans un orphelinat.
Arrête.
Mais il est temps pour moi de retrouver mes parents.
Ozzy, la voix de la forêt. Alors avec un tel nom, on pourrait croire à une nouvelle émission de télé-réalité sur Ozzy Osbourne, hein, le célèbre chanteur de Black Sabbath, devenu écolo entre-temps, pour écluser ses innombrables années sous substance. Mais bien que cet intitulé soit profondément alléchant, il n'en est malheureusement rien, car Ozzy, cette Ozzy-là, hein, est une jeune orang-outan qui a perdu ses parents suite à l'incendie de sa forêt, et des années plus tard, va comprendre que ce feu cache quelque chose d'encore plus destructeur qu'il va falloir combattre pour préserver totalement l'intégrité de la forêt. Alors pas très métal, hein, donc. Et même le contraire, hein, car du verre et du nature, hein, de synthèse quand même, hein, on va en manger à toutes les sauces, mais pas tout à fait comme dans les Avatar.
Regardez ! Oh non !
C'est quoi là-bas ?
Cet endroit était ma maison.
Ces gens sont en train de détruire notre île. Il faut qu'on empêche ça.
C'est quoi ton plan?
On passe à l'action.
Alors on l'entend, hein, Ozzy, La Voix de la Forêt se fait le porte-voix hein, d'une nature en péril. Alors il n'est pas le premier film d'animation à le faire, hein, parce que bien sûr on pense à l'œuvre de Miyazaki en particulier. Alors La Forêt dans Ozzy hein, rappelle à sa façon les espaces verdoyants immaculés, hein, quasi virginaux de Princesse Mononoke. Mais le film adopte néanmoins un style graphique, lui, rudimentaire, dans une 3D volontairement dépouillée et enfantine, bah, qui peut franchement dérouter par rapport aux standards de l'animation moderne qu'on a l'habitude de voir. Hein. Mais bon, il faut se rappeler que le film n'est pas issu hein, d'une major comme Pixar. Alors la comparaison fait quand même un peu mal d'ailleurs, hein, parce qu'on pense forcément à La Jungle de là-haut et Ozzy peine à faire valoir ses choix graphiques pas forcément heureux. Alors en gros, on est plus dans un film Gulli, hein, un gros budget, hein, que dans un film DreamWorks. D'ailleurs, ça fait penser que l'année dernière, Le Robot Sauvage de ce même studio avait su faire des étincelles dans un univers similaire et au message peu ou prou identique. Bref, sale temps pour cette planète des singes.
Une maison, une famille, ça vaut le coup de se battre pour ça.
Mes parents sont là, j'en suis sûre et certaine. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Nous ne pouvons pas les laisser faire.
Mais au fond, le simple goût artistique ne serait pas un problème si le fond était quant à lui irréprochable. Alors il est indéniable que Ozzy, La Voix de la Forêt est un assez joli film, hein, thématiquement sans temps. Mais fallait-il combattre le feu par le feu, hein, c'est-à-dire dénoncer les grandes déforestations et l'horreur mécanique de notre monde moderne en transformant Ozzy en influenceuse, hein, fallait-il inciter les enfants à prendre la première tablette qui vient pour singer? Les grands méchants corporatistes du film, en sachant le coût en CO2 et autres joyeusetés qu'entraînent et le surpeuplage des gens sur internet qui postent des millions de vidéos inutiles par jour, et le prix que les hommes et notre planète paient hein, pour récolter bah, ce qui compose nos fameuses tablettes. Donc on en vient à se demander si un message important fait un bon film. Alors même si Ozzy enchantera à coup sûr hein, les tout-petits et la volonté bah, plus ou moins bonne d'être inoffensif, hein, il est quand même important de rappeler qu'il faut revoir tout notre mode de pensée pour vraiment combattre l'ogre consumériste. Ou alors bah, l'analogie entre les singes et les influenceurs est plus féroce que prévu.
Après Ozzy, donc, tu nous parles de Dogman.
Oui, alors je parlais d'analogie, ben justement Dogman, lui, s'en passe allègrement, hein, puisqu'il ne fait pas de lien entre l'homme et l'animal, il fait mieux, il mixe l'homme et l'animal. Alors nous parlions des studios DreamWorks, hein, et voici que leur petit dernier vient tout juste de pointer le bout de sa truffe. Nous évoquions également hein, le Robot Sauvage, hein, sorti l'année dernière. Et tout cela nous montre que le studio d'animation co-créé à l'époque par Steven Spielberg, qui s'était fait grandement discret hein, ces dernières années, voire même décennies, j'ai presque envie de dire, signe un retour hein, sur le devant de la scène particulièrement réjouissant. Alors si Dogman n'a pas la profondeur du Robot Sauvage, hein, il éclipse sans problème toutes les dernières productions soporifiques hein, de Disney Pixar. Ce qui n'est pas peu dire à l'heure actuelle, hein, vu qu'à l'époque de la création de DreamWorks, ben, c'était le but affiché de ses géniteurs.
Quand les rues sont prises en otage.
Une bombe ! Greg le chien, envoie la sirène !
Les deux meilleurs flics de la ville doivent s'unir.
Le vert ou le rouge ? Vert. Au fait, les chiens sont pas daltoniens ?
Et se battre en ne faisant qu'un.
Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier ?
Alors Dogman a pour postulat de départ une très très drôle hein, relecture de Robocop, hein, le film ultra-violent de Paul Verhoeven. C'est quand même pas mal pour un film pour enfants. Alors blessés hein, dans l'exercice de leur fonction, un policier et son chien sont sauvés par des docteurs un peu fous hein, qui combinent les deux êtres en un seul. Ça tombe bien d'avoir un héros chien, hein, car le grand méchant du film n'est rien d'autre qu'un gros chat, hein, une sorte de Cortex, de Minus et Cortex, en plus énervé, hein, qui cherche à dominer le monde. Alors c'est sans compter hein, une de ses expériences qui rate et qui lui livre dans sa quête de destruction un clone de lui-même, mais tout petit. Passé hein, ce clin d'œil au génial Austin Powers, le chat va découvrir malgré lui les affres de la parentalité et qu'au fond, bah, il est peut-être méchant parce qu'il a lui aussi manqué hein, d'une figure paternelle solide. Alors énoncé comme ça, oui, le spectacle a l'air particulièrement gnangnan. Heureusement, il n'en est rien car Dogman appartient à cette nouvelle génération hein, de films et d'animateurs sachant répondre au code du film pour enfants tout en augmentant son potentiel via ses références culturelles et des parties préesthétiques forts et assumées. Rappelez-vous la belle surprise, hein, par exemple, des Mitchell contre les machines très récemment.
Y'en a marre de Dogman, il est temps d'arrêter ce super flic! Il ne va pas mettre en péril mon plan diabolique pour détruire tous les bons samaritains.
Comment un chat peut-il être aussi méchant?
Tu vas vite le savoir!
Dogman, écoute-moi!
Tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Grâce à ta maîtrise du kung-fu et ton courage canin, il reste. Y a pas de temps à perdre.
Alors loin de la laideur ambiante d'Ozzy, hein, bah Dogman enchante hein, par son visuel marqué hein, comme les précédents et récents Spider-Man New Generation et amuse tout le monde en mêlant personnages mignons, actions cartoonesques et grands sauts entre réflexion familiale et combat de kaiju piloté par un poisson psychopathe. Et oui, Dogman hein, signe également bah, le retour en force du slapstick, hein, cette forme d'humour héritée du cinéma burlesque muet et très développée dans l'univers du cartoon. C'est le deuxième film hein, d'animation en deux mois à le faire après l'hilarant Daffy et Porky sauvent le monde. Il y a la même manière à décomplexer de jouer avec les références. Hein, et alors pour Daffy et Porky, c'était l'invasion des Body Snatchers et autres grands films de SF avec des monstres venus de l'espace, mais toujours au service du scénario. Et ça fait du bien. Hein. Et si l'animation était aujourd'hui l'un des derniers remparts bah, d'une mécanique à la fois bien huilée, mais aussi franchement débridée. Alors à travers ces derniers exemples hautement réjouissants, nous avons en tout cas de quoi trouver enfin du divertissement populaire au sens premier du terme, qui sait faire de son public un allié dans l'appréciation des récits proposé, ben, comme on l'a dit, ça fait du bien.
Voilà encore un film léger hein, que j'ai vu, effectivement, Dogman, alors avec une animation assez particulière, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du stop-motion, mais en version numérique. Donc c'est très très étrange, mais c'est pas du tout inconfortable, au contraire, enfin voilà, c'est une vraie marque graphique.
Et
voilà.
En même temps, ça singe pas Wallace et Gromit ou les studios Hardman, c'est ça qui est agréable, ça a vraiment sa patte en fait.
Ouais, effectivement.
Pour un film avec un chien, c'est bien.
Et donc, c'est aussi pour les adultes, alors que Ozzy, je pense que c'est plutôt réservé aux enfants. Ces deux films sont en salle pour les vacances. Un cryptographe de la CIA doit prendre les choses en main pour rechercher les assassins de sa femme. Nous parlons de The Amateur.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Avant d'incarner Freddie Mercury, moustache à l'écran, Rami Malek s'est fait connaître avec Mr. Robot, un hacker de talent. Voilà l'acteur qui se remet dans la peau d'un geek pour The Amateur, thriller d'espionnage au cœur de la CIA. Une adaptation libre d'un roman de Robert Little, paru en 1980, qui se déroulait sur fond de guerre froide. Alors, il n'en est plus question ici, mais le personnage demeure un cryptographe. Charlie, donc Rami Malek, travaille à la CIA, c'est une pointure, hein, mais son rôle se cantonne à rester derrière un ordinateur au cinquième sous-sol, jusqu'au jour où, à l'occasion d'un voyage à Londres, eh bien, sa femme est victime d'une prise d'otage à l'issue fatale. Son seul souhait, se venger.
Votre femme a été tuée. Vous devez savoir que ce que vous faites est très important pour nous.
Laissez-nous régler cette affaire.
Je veux être formé pour cette mission. Je veux du cash et une nouvelle identité.
Vous avez perdu la tête ?
Je veux retrouver et éliminer ceux qui ont tué ma femme.
Sérieux, vous pourriez même pas battre une nonne de 90 ans au bras de fer.
En quelques clics reliant les données des caméras de vidéosurveillance, Charlie parvient à mettre des noms sur les terroristes. Il ne comprend pas que la CIA donc ne bouge pas. Il n'a donc bien qu'une envie, hein, se les faire, ces terroristes. Seulement, il n'est pas formé pour ça, mais il va parvenir à faire chanter ses supérieurs pour avoir le plaisir de se venger. Mais son formateur, incarné par Lawrence Fishburne, lui répète « Il n'est pas fait pour tuer. Il y a des gens qui le font sans sourciller, lui n'y parviendra pas. » Une arme à la main, alors non, mais par destination, possible hein, que Charlie puisse parvenir à éliminer quelques cible. Et c'est toute la finesse de ce scénario qui ne veut pas transformer notre homme en tireur d'élite et pro du corps à corps à la Jason Bourne. Il conserve ses qualités de décrypteur, son intellect, hein, on va dire, ses capacités de codeur. Mais pour le reste, eh bien, c'est un amateur.
J'aurais beau t'entraîner, tu n'en seras jamais capable. Tu n'es pas un tueur, Charlie.
Toi, t'es juste un geek qui bosse dans l'informatique. Fais gaffe à ce que tu fais. Tu vas y rester. Est-ce qu'au moins vous êtes conscient de ce que je suis capable de faire ? Tu as pointé une arme sur la tête de ma femme. Cette télécommande active un dispositif capable de décomprimer le verre de cette piscine.
Il y a erreur sur la personne.
Non, je sais que tu es la bonne personne.
Si tu te dépêches de sauter, tu pourrais survivre à l'explosion.
Attendez !
Conformément à beaucoup de thrillers d'espionnage, notamment à partir des années 2000, eh bien on voyage au gré des cibles à chercher à travers l'Europe jusqu'à Istanbul. Il y a un soupçon de paranoïa qui permet de créer la tension nécessaire, d'autant que notre vengeur est également recherché par les siens. L'action est dosée avec des séquences plus calmes et des salves de réflexion de vive voix sur ce que la vengeance apporte au deuil et sur la portée de donner la mort. Avec ça, le réalisateur jure que tout ce qu'on voit sur la surveillance des individus est véritable et avéré par des agents de la CIA qui étaient conseillés sur le film, donc ça fiche un peu la frousse. The Amateur est un film qui ne révolutionne pas le genre, alors là pas du tout, qui reste dans une veine classique mais qui se tient bien dans les limites qu'il s'est fixé, à savoir ne pas construire un héros hors norme mais un personnage qui se dépasse pour transformer sa souffrance en motivation. The Amateur est en salle depuis le 9 avril.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ? terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez des films?
Moi, j'en ai deux. Donc, je vous parlerai de Mikado et puis du plus gros succès en 2024 en Thaïlande avec un titre qui pourrait ressembler à une comédie française à la con. C'est Comment devenir riche grâce à ma grand-mère.
Moi aussi, j'aurai deux films. La réparation et puis Rapide.
Moi, je vous parlerai de G20 et de Sébastien.
Et avec un peu de chance, moi, je vous parlerai d'Oksana, une petite incursion chez les Femen.
À la semaine prochaine.